France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19, la colère des gilets jaunes est juste à bien des égards. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir pour apaiser la situation et tenter de sortir de cette crise. Mais plus que les mots, il y a les mesures que le chef de l'État a annoncées. 100 euros de plus par mois pour les salariés au SMIC, les heures supplémentaires versées sans impôt ni charge et l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros. Bonjour Sandra Wabian.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle évaluation et société au Crédoc, le centre d'études sur les conditions de vie. La question du pouvoir d'achat, elle est au cœur de ce mouvement des gilets jaunes. Les mesures annoncées par le chef de l'État vont-elles réellement améliorer le pouvoir d'achat ?
Alors, elles vont améliorer le pouvoir d'achat des bas revenus, ce qui était quand même vraiment une attente de ce mouvement. En revanche, elles répondent pas nécessairement à toute la question de la justice sociale et de la redistribution, qui était beaucoup aussi au cœur des revendications du mouvement, avec l'idée qu'il fallait rétablir plutôt l'ISF. Et puis, autour de ça, il y a un certain nombre de mesures, l'exit tax, la flat tax, etc. Donc, on a finalement donner un signe pour les bas revenus en leur disant on vous entend, on comprend que vous êtes dans des difficultés, que le 15 du mois vous n'arrivez pas à payer vos factures, mais en revanche on reste dans une logique où finalement il y a des sortes de leaders économiques, des gens qui vont tirer le pays et d'autres derrière à qui on va donner un peu de redistribution.
C'est toujours la théorie du ruissellement.
Voilà, toujours la théorie du ruissellement et tout ce qui a un rapport au collectif, donc les services publics par exemple, ont été assez absents finalement, hein. Donc c'est même au niveau politique, on va vers des mesures où on va parler du vote blanc, donc qui est une mesure individuelle, qui effectivement est une mesure qui est attendue depuis très 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 longtemps en France, hein, mais pas de mesures qui permettent de créer du collectif autrement en fait, avec une vision de la société qui est toujours entre d'un côté des leaders et des personnes qui sont des pépites pour la société et puis de l'autre un peu des personnes qui sont sur le bas-côté et qu'il va falloir aider.
Le reproche qui revient beaucoup hein, depuis hier soir, le reproche qui est fait au président, c'est que, alors certes, il va aider les personnes modestes, mais avec de l'argent public, il ne touche ni aux riches, ni aux entreprises.
Oui, c'est ça, c'est cette question de la justice sociale. D'où vient l'argent, qui effectivement était quand même très récurrente. Il y avait beaucoup aussi, par exemple, de paroles sur les élus, sur les indemnités des élus. Donc, on voit bien des attaques finalement par rapport au haut de la pyramide, toutes les discussions autour de Carlos Ghosn. Voilà, on est dans un moment où les inégalités sont injustes par le bas, c'est-à-dire qu'on supporte pas la pauvreté, mais on supporte pas non plus aussi qu'il y ait 1% de la population qui s'accapare une grande partie finalement des richesses.
J'aimerais qu'on revienne sur les trois mesures phares annoncées hier. Donc d'abord 100 euros de plus par mois pour les personnes qui touchent le SMIC, sans que ça ne coûte plus aux employeurs. Donc très concrètement, ça veut dire que les 100 euros viennent de l'État, c'est ça?
Alors en fait, si j'ai bien compris, c'est plus une accélération du calendrier que réellement vraiment un changement. C'est-à-dire que l'État avait déjà prévu d'augmenter la prime d'activité, mais ça devait se faire sur 5 ans. Ils ont accéléré en fait le mouvement. Et effectivement, ça vient de l'État. Et surtout, ça touche pas forcément tout le monde, puisque la prime d'activité, ça touche que ceux qui travaillent, donc les chômeurs ne sont pas concernés. Ça touche que les salariés, donc il n'y a pas les indépendants.
Ça représente combien de personnes à peu près? Vous avez une idée ou...
Non, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois qu'on a 1,6 million de personnes qui sont au SMIC, donc on doit être dans ces ordres de grandeur. Mais on n'est pas sur une mesure qui va permettre, là aussi, de créer une solidarité à long terme, puisque cette prime d'activité, par exemple, elle n'est pas comptée dans les retraites. Donc en fait, c'est une mesure de court terme. Donc, qui effectivement peut apaiser la colère
momentanément. Voilà. Les heures supplémentaires maintenant qui seront versées donc sans impôt ni charge, ça aussi, ça va permettre de gonfler le porte-monnaie de certaines personnes.
Oui, ça aussi, c'est une mesure.
Il y a beaucoup de gens qui font des heures sup
à court terme. Oui, il y a un certain nombre de personnes. On estime à peu près à 40 euros le gain par individu, par salarié de pouvoir d'achat.
Donc
c'est pas par mois, donc c'est pas négligeable. Mais là aussi, on est dans des mesures qui sont désocialisé, défiscalisé. C'est-à-dire qu'à court terme, on donne des sous aux gens, mais à long terme, on protège moins.
La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Est-ce qu'à l'époque, ça avait été évalué et on sait à qui ça a profité?
Alors, En termes d'évaluation, on est plus dans de la symbolique, c'est-à-dire que finalement, il y a cette idée qu'on va libérer le travail. En termes d'effet, il n'y a pas eu un changement énorme, on va dire, de la situation économique. Et puis, ça a tendance aussi à centraliser ces heures de travail sur les gens qui sont déjà au travail. Et donc, toute la problématique de la précarité, des gens qui sont en CDD, qui sont en intérim, qui n'arrivent pas finalement à se stabiliser dans l'emploi, elle n'est pas du tout traitée.
Il y a des mesures quand même qui concernent des gens qui ne sont plus dans l'emploi, les retraités. L'annulation de la hausse de la CSG pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros, ça c'est un gros coup de pouce ou c'est vraiment quelque chose qui est à la marge?
Non, c'est un gros coup de pouce parce que effectivement les retraités les plus modestes étaient en difficulté, mais globalement il faut rappeler quand même que l'ensemble des retraités ont plutôt une situation économique plus favorisée que la moyenne. Ils ont 3% de niveau de vie supérieur à celui des actifs et puis surtout ils sont souvent propriétaires de leur logement. Donc finalement, cette mesure, elle va aider notamment les retraités qui sont des retraités, par exemple, locataires et donc qui n'ont pas ce petit pactole, si je puis dire, de ne pas avoir à dépenser chaque mois des dépenses pour son loyer.
Alors, pour reprendre maintenant au niveau global, l'exécutif a chiffré le coût de ces mesures à les 8-10 milliards. Dans la période récente, est-ce qu'on a déjà eu un gouvernement qui a mis en place des mesures pour le pouvoir d'achat à hauteur de 10 milliards ?
Alors, comme à chaque fois, on est toujours un peu dans des moments de communication, donc ils chiffrent à 10 milliards, mais c'est aussi beaucoup de mesures qui ont été ramassées dans le temps, finalement. Mm-hmm. Donc, il faudrait comparer avec l'ensemble d'un
quinquennat. Des choses qui avaient déjà été prévues, ce que vous disiez, la prime d'activité, finalement.
Il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été prévues. Et d'ailleurs, c'est un peu une des raisons de la colère, c'est-à-dire que dès l'élection, il y avait eu un discours autour du « en même temps », on va en même temps favoriser l'économie et en même temps aider. Et finalement, dans le « en même temps », il y a eu une séquence un peu différenciée avec d'abord quand même beaucoup cette idée qu'on va favoriser l'économie en défiscalisant par exemple.
Sandra Wabian, en dehors de ces nouvelles mesures, jusqu'à présent, est-ce que la politique d'Emmanuel Macron a favorisé ou dégradé le pouvoir d'achat d'après vous? Parce que tout le monde n'est pas d'accord là sur le sujet. Alors vous?
Oui, alors je sais pas si en fait la vraie question c'est celle du pouvoir d'achat, puisque
ce qui revient quand même dans la bouche des gilets jaunes. Hein.
Oui, mais c'est un mot qui devient presque totem en fait, c'est-à-dire qu'il est répété. Mm-hmm. En fait, ce que désirent les gilets jaunes quand ils s'expriment, c'est ne pas être contraints dans leur budget, ne pas être obligés de calculer toutes les minutes, de ne pas avoir une liberté un petit peu de décision. Et donc finalement, c'est pas tellement cet indicateur du pouvoir d'achat qui est calculé par l'INSEE, qui est intéressant, mais plutôt celui des dépenses contraintes, c'est-à-dire combien chaque mois on est obligé de dépenser pour son logement, pour ses assurances, pour son téléphone, etc. Et là-dessus, Emmanuel Macron n'a rien proposé, c'est-à-dire qu'un des nœuds du problème, c'est quand même l'augmentation des prix du logement, qui fait que depuis une quinzaine d'années, on a des foyers qui sont de plus en plus contraints.
C'est ce qui coûte le plus dans le budget d'une famille.
C'est ce qui coûte le plus dans le budget d'une famille, un quart du budget, et là-dessus, il n'y a rien.
Rien. Donc le pouvoir d'achat, il faut arrêter d'être focalisé là-dessus, quoi. Ou alors il faut trouver une autre façon de le calculer ou...
Alors il y a plein d'autres façons de le calculer. L'INSEE travaille déjà avec plein d'autres indicateurs, donc par exemple le revenu arbitrable et les dépenses contraintes. Et puis peut-être aussi qu'il faut parler de quelque chose qui est important, qui est la question de la liberté. Parce que finalement, le mouvement des Gilets jaunes, il est né aussi parce qu'il y a eu un sentiment de ne plus avoir de liberté de se déplacer. De perdre encore un champ sur lequel on va avoir de la liberté dans une société où on valorise la liberté, puisque le discours d'Emmanuel Macron, c'est soyez libre d'être vous-même et ainsi vous réussirez.
Sandra Wabian, j'imagine que vous avez entendu tous les proches d'Emmanuel Macron, les membres du gouvernement, les députés marcheurs. Il y a un élément de langage quand même qui revient ces derniers jours, c'est pas de notre faute, c'est quand même la faute des 30 ou 40 années précédentes. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le résultat de 40 ans de politique.
Oui,
c'est
vrai. Ils ont raison. Ça fait quand même un certain nombre d'années que dans les enquêtes du Crédoc, dans celles du Cevipof, on voit une distance aux institutions, une méfiance dans les politiques, une forme de pessimisme qui s'est installée. Et là où ils ont un peu tort, c'est qu'au moment où Emmanuel Macron a été élu, il avait créé une sorte de vague d'espoir qui était assez inédite, étant donné l'état dans lequel était la société française au moment de l'élection. Donc voilà, ils ont raison, mais
pas complètement.
Mais pas complètement.
Merci beaucoup Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société au Crédoc, le centre d'études et de recherche sur les conditions de vie. Vous étiez l'invité du 5-7 ce matin.